Louis-François Retz, vous êtes directeur général délégué à la coopération institutionnelle à la ville de Metz. Alors, vous représentez ici aujourd'hui M. Gros, le maire de Metz, qui s'excuse, je crois, parce qu'il a des impératifs qui l'ont finalement empêché de venir. Alors, c'est un secret pour personne ici. Le maire de Metz a porté, il y a quelques semaines, devant le Congrès européen des pouvoirs locaux, un message assez fort pour appuyer une résolution qui appelle à une nouvelle répartition de l'impôt dans les zones frontalières. Metz est beaucoup plus éloigné des frontières, mais le phénomène des travailleurs frontaliers, c'est plus du tout un sujet marginal dans cette ville, puisque si le Luxembourg était une entreprise, ben, ce serait aujourd'hui le premier employeur de Metz. Monsieur Retz, quels sont les défis sur le plan économique et comment la coopération transfrontalière pourrait y répondre d'une manière plus satisfaisante?
Merci. Alors, tout d'abord, merci de votre accueil au Cercle Pierre Werner. J'excuse le maire de Metz qui est pris par une réunion sur l'avenir de la cour d'appel de Metz. Il y a des moments comme ça où il vaut mieux être sur place que de s'absenter. Je voulais vous dire également, pour me présenter en deux mots, je suis effectivement directeur général délégué de la coopération institutionnelle à la ville de Metz depuis 10 ans exactement. Mais précédemment, j'étais arrivé à la mission interministérielle du Pôle européen de développement comme chargé d'études en urbanisme et aménagement en 1993. Et puis, on a créé une association transfrontalière du Pôle européen de développement qui a été présidée pendant 2 ans par M. Dondelinger, bourgmestre d'Athus, qui m'a appris à être pragmatique. Je vais vous en donner la preuve. Et ensuite, j'ai créé l'agence d'urbanisme AGAP. J'y suis resté à la direction pendant 15 ans et j'ai rejoint donc la ville de Metz. Donc, je ne vous parle pas d'un point de vue de Metz. Je vous parle de quelque chose qu'on porte depuis une trentaine d'années de l'intérieur. Et je voudrais juste aujourd'hui vous apporter un témoignage extrêmement concret sur la perception qu'a le maire de Metz des enjeux. Autrement dit, je vous amène la solution aujourd'hui, réjouissez-vous, à tous les problèmes qui ont pu être évoqués depuis bientôt 2 heures. Nous pensons qu'en 2020, il faut passer d'un nouveau modèle de développement économique, c'est-à-dire celui qu'on a hérité des années 80 il y a 40 ans, si on veut passer la ligne 2080 dans 40 ans. Je vais vous donner 2-3 chiffres qui vous permettront de voir qu'il est évident qu'on va dans le mur, la seule chose qu'on ne sache pas, c'est quand. Mais il est évident qu'il ne se passera pas sur la période 2020-2080 ce qui s'est passé sur la période 1980-2020. L'enjeu pour nous, c'est de rééquilibrer, c'est ça ce à quoi il faut qu'on travaille ensemble, rééquilibrer la compétitivité fiscale du Luxembourg qui sert de seul indicateur aux politiques de Luxembourg au profit de politiques de métropolisation. Et nous pensons que l'un empêche l'autre. En même temps, je vous le dis, on sait très bien que seul Luxembourg peut et prendre l'initiative et le mettre en œuvre. Donc, on peut prêcher dans le désert longtemps. Tant que Luxembourg n'aura pas décidé unilatéralement de se livrer à une nouvelle étape, ça n'arrivera pas. Ça ne nous empêche pas de causer, mais on sait très bien qu'on parle dans le vide. Bien. C'est quoi cette opposition entre métropolisation et compétitivité fiscale? J'ai un texte auquel je vais me tenir, puisque c'est la parole du maire de Metz, et il a validé ce texte. En 80, les impôts prélevés par le Luxembourg sur le travail et les richesses produites assuraient la prise en charge de 80% de la population ayant un emploi, les 20% restants étant renvoyés à une prise en charge par les territoires frontaliers. En 80, Luxembourg assure 80% des charges de sa population active, même un peu plus, 82. En 2019, ils ne prend plus en charge que 50% de sa population active. Et si on regarde ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois, il n'a pris en charge que 40% de la population active. 60% sont des frontaliers, 40% sont des résidents. Et dans les résidents, il y a 50% de population étrangère qui sinon serait devenue frontalière. Mais ne rentrons pas dans ces détails. Plus il y a de frontaliers à Luxembourg, plus il y a de recettes, moins il a de charges. Plus il a de recettes, moins il a plus il a de frontaliers, moins il a de charges résiduelles. Le rendement s'améliore au rythme des frontaliers. Alors évidemment, ça lui permet de baisser sa fiscalité. Ça a été évoqué tout à l'heure. Cette baisse de fiscalité continue, évidemment, attire de plus en plus des entreprises, des nouvelles, mais aussi des transferts, on le sait tous. Et plus il y a de transferts d'entreprises, bien, tout simplement, les salariés des entreprises, on les appelle des frontaliers. Et plus il y a de frontaliers, plus on peut baisser la fiscalité, et ainsi de suite. Donc on voit bien la vertu budgétaire de ce modèle. Mais il est porteur en lui-même de tous les défauts du modèle. Qui peut croire, et c'est là qu'il y a le mur que j'évoquais tout à l'heure, qu'on ait pu passer de 20% en 80 à 50% en 2010, qu'on soit aujourd'hui sur une tendance de 40-60. Et donc, c'est quoi le modèle? C'est qu'à un moment donné, 100% de la population est frontalière, le Luxembourg a 0% de charges, les territoires frontaliers ont 100% des charges et 0% des impôts. Donc, c'est absurde de l'imaginer. Donc, tous ici, on est sûr que ça n'arrivera pas. Personne ne peut prétendre que ce soit possible. Or, le modèle nous emmène là. Donc, il y a une rupture dans le modèle à un moment donné, ou un tassement. La question, c'est de savoir quand ça arrive. Mais il est certain que ça va arriver. Ça va arriver, pardon. Alors, quelle est l'alternative? D'abord, pourquoi est-ce qu'il y a autant de frontaliers? Sur les 12 derniers mois, quand les entreprises ont créé 16 000 emplois, il n'y a eu que 3 000 logements neufs achevés à Luxembourg. 3 000 logements, 16 000 emplois. Le résultat, c'est 9 300 frontaliers. Ils sont 205 000 au total aujourd'hui. C'est les chiffres à peu près récents. Or, le Luxembourg n'a jamais été en situation d'accueillir plus de 6 700 nouveaux actifs en une année. C'était les 12 derniers mois, 6 700. Mais ne semble pas s'interroger sur la façon dont les territoires frontaliers s'organisent pour en accueillir 40% de plus. Presque 10 000, dont 6 200 rien qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, sur les 12 derniers mois, on a accueilli autant d'actifs que le Luxembourg en a accueilli chez lui, à 500 près, 6 700. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce sont les conséquences de choix politiques du Luxembourg. Il relève en effet de la responsabilité politique du Luxembourg de fixer en même temps les conditions cadres qui permettent aux entreprises de créer 16 000 emplois et les conditions cadres qui permettent de ne créer que 3 000 logements. Les territoires frontaliers sont les territoires d'ajustement des arbitrages politiques internes du Luxembourg. Pourquoi pas? Mais si les territoires frontaliers sont devenus des partenaires essentiels de la croissance économique du Luxembourg, accueillant en 2019 60% de sa main-d'œuvre, alors il faut parler des conditions de ce partenariat et sortir du fait accompli. On ne peut pas demander aux territoires frontaliers de vivre cette aventure à leur insu. Ça ne marchera pas. Il est incroyable que cette simple demande paraisse incroyable. Toujours plus de frontaliers, toujours moins de charges, toujours moins de pression fiscale. C'est la séquence 80-2020, c'est la séquence compétitivité fiscale. Mais cette spirale budgétairement vertueuse pour Luxembourg a des coûts cachés, deux principalement, ça a été évoqué, liés au désordre généré par la prise en charge que d'un salarié sur deux par l'impôt collecté par le Luxembourg, et demain de deux sur trois, et les coûts liés au sous-investissement sur l'aire métropolisée par Luxembourg. Autrement dit, aujourd'hui, les impôts versés par les entreprises et leurs salariés ne sont mobilisés que sur 5% des communes de résidence des actifs au Luxembourg, qui n'accueille que 50% des salariés. Vous entendez ce chiffre? Quand Luxembourg refuse de mobiliser l'impôt collecté globalement sur sa force de travail sur les territoires extérieurs, directement, on en reparlera, c'est la compensation par exemple, c'est le co-développement, il concentre son budget que sur 5% des communes. Il y a 100 communes luxembourgeoises, même un peu moins. Il y a 2000 communes frontalières. Ça pose un deuxième problème, c'est que la mise au gabarit de l'administration centrale de Luxembourg, c'est de s'occuper des 100 communes. Et Luxembourg nous dit, mais vous inquiétez pas, on va faire projet par projet. Ah bon, projet par projet? Donc, cette administration qui s'occupe de 100 communes va s'occuper de monter des projets avec 2000 autres. C'est une plaisanterie. Et si on regarde ce qui s'est passé sur les 30 dernières années, je vous dis qu'il ne s'est rien passé. Il y a eu le désenclavement de Belleval, comme son nom l'indique, 6 millions d'euros injectés par Luxembourg. Voilà. Donc, il faut quand même avoir conscience que derrière les mots se cachent des réalités de terrain qui font que, de toute façon, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, quels que soient les schémas qu'on a pu voir tout à l'heure au niveau de la grande région, pour mettre en œuvre des actions, il faut des hommes et il faut des budgets. L'absence d'investissement à hauteur des enjeux sur l'aire métropolisée par Luxembourg nuit évidemment à son développement, en particulier sur les conditions de mobilité et de qualité de vie. D'ici 2030, il devrait y avoir 60 000 frontaliers français de plus. Au rythme des 12 derniers mois, il devrait y en avoir 75 000. Donc on devrait passer de 105 000 à 180 000. Qui peut croire un seul instant que ce soit possible? Et dans le même temps, on a prévu, parce qu'on anticipe, une augmentation des trains express régionaux, TER chez nous. À 10 ans, l'investissement, c'est 1,1 milliard. On va arriver à doubler la capacité. Doubler cette capacité, c'est-à-dire qu'on va amener 12 000 places de plus. Je viens de vous dire que l'augmentation était de 75 000. Et ça sera fait si et seulement si les Alsaciens acceptent de voter le budget. Si et seulement si les Champardonnais acceptent de voter le budget. Les Vosgiens acceptent de voter le budget. Qui peut croire que ça va se passer comme ça? La 31 bis, Luxembourg nous dit « je ne paye pas ». Ah bon, d'accord, alors il y en a pour combien? 1,8 milliard, débrouillez-vous. Alors Paris va se débrouiller. Mais qui vous dit qu'il va le faire? Qui vous dit que la Chambre va se précipiter pour dire « oui, il n'y a pas de problème, parce que ce sont des investissements longs, c'est prioritaire pour la France ». Donc, en fait, la métropolisation de Luxembourg s'en est remise au bon vouloir des budgets des exécutifs étrangers, alors que nous sommes collectivement sur une des aires métropolitaines les plus riches d'Europe. Pas de budget sur la métropolisation. Les incertitudes sur le nombre de frontaliers. Comment imaginer que le nombre de frontaliers puisse augmenter dans de telles proportions dans les 10 ans? Incertitude sur les investissements indispensables à la métropolisation. Incertitude. Le modèle de développement économique des années 80 qui s'en remet à la Providence ne permettra pas de passer les années 2080. Et c'est nous qui en payerons les coûts en même temps que Luxembourg. Nous en sommes parfaitement conscients. Il est donc urgent de travailler un nouveau modèle. Mais il appartient au Luxembourg de dire s'il souhaite que les territoires frontaliers deviennent les partenaires de sa croissance métropolitaine et de prendre l'initiative de la construction d'un projet de co-développement. Le 17 octobre 2019, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a invité le gouvernement luxembourgeois à ouvrir les discussions pour un nouvel accord bilatéral belgo-luxembourgeois lors de la visite royale et a ouvert cette discussion aux Français et aux Allemands. Je suis venu vous dire de la part du maire de Metz que nous y sommes très favorables et que nous y sommes prêts. Deuxième point de mon intervention, et ça sera la conclusion, je vous ai parlé là des conditions du co-développement. On a suffisamment dit quelles étaient les conditions et l'étude qu'a fait la Fondation IDEA est absolument parfaite sur ce plan. Elle nous permet effectivement d'avoir une idée très concrète de ce qu'il est possible de faire. Donc je n'y reviens pas. Et il y a donc la question des compensations. C'est une autre question. J'entends, on voit la presse aussi, les uns les autres, mélanger toujours la question du co-développement et des compensations. Ça n'a rien à voir. L'enjeu des compensations, c'est celui de la juste répartition des impôts et des charges en territoire transfrontalier. C'est une question territoriale qui intéresse principalement les pouvoirs locaux et régionaux. C'est une question d'équité qui n'a rien à voir avec le nombre de frontaliers. Il n'y aurait qu'un seul frontalier, qu'il serait nécessaire de lui réserver un traitement équitable face à l'impôt et au service de cet impôt. Il ne peut pas y avoir durablement, au centre de l'Europe, dans les entreprises, deux salariés jumeaux, l'un habitant Luxembourg, l'autre habitant à Metz, l'un ayant le retour d'impôt et son jumeau n'ayant droit à rien. L'Europe, ce n'est pas ça. C'est la base même du consentement à l'impôt. Et c'est un enjeu d'une autre nature que le co-développement. Mais c'est une question qui ne se règle qu'à travers des conventions passées entre États, qui ne sont pas forcément très concernés par ces enjeux locaux. Il faut convenir d'ailleurs que nos capitales nationales et régionales peuvent voir d'un assez bon œil les nuages qui s'amoncellent ici ou là sur les capitales concurrentes. Or, c'est à ces capitales que nous nous adressons pour faire avancer les questions de compensation et de co-développement, ce qui devrait interpeller le Luxembourg et l'inciter à les régler localement, puis les faire acter nationalement. Qui peut croire ici, dans cette pièce, que lorsque nous allons à Strasbourg demander des financements pour tel ou tel projet avec Luxembourg, on nous accueille à bras ouverts en nous disant « génial, on va aider Luxembourg ». Qui peut croire que quand on va à Paris parler des problèmes qu'on a, quand on a quitté la pièce, derrière nous, on ne nous dise pas dès que la porte a été fermée « super, ça va mal à Luxembourg, ça coince dans tous les coins, super ». Évidemment, ils sont tous concurrents. Or, nous remettons les conditions de notre développement collectif au bon vouloir de territoires qui nous sont concurrents, alors qu'on a les moyens chez nous. Pour finir, donc, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe s'est saisi de cette question en 2017. donc depuis 3 ans, et a voté le 29 octobre 2019 pour confirmer que le partage de l'impôt est la règle qui doit être appliquée sur les territoires transfrontaliers des 47 États. Ce n'est pas faire insulte au Luxembourg que de dire que le vote a été acquis d'autant plus facilement à 10 contre 1 que cette règle est déjà appliquée par tous les autres États européens sauf Luxembourg. Je finis. Par voie de presse, le gouvernement luxembourgeois semble appréhender cette recommandation comme un problème, alors que c'est une partie de la solution. Tout comme pour les communes belges, la compensation est indispensable à l'équilibre de nos territoires. Et une fois les conditions d'équilibre mises en place, nous pourrons construire ensemble les conditions du co-développement autour de la métropole du Luxembourg. Nous considérons pour notre part, à Metz et dans le sillon lorrain, que les meilleurs alliés de la croissance luxembourgeoise sont les territoires qui lui sont frontaliers, et nous serons d'autant plus enclins à la promouvoir, cette croissance, que nous y trouverons un intérêt à agir. Je vous remercie.